Bonjour à tous. Je dois dire que il y a beaucoup d'éléments dans la première partie de ce culte qui m'ont encouragé à les vivre, à les entendre. Je pense juste à la première parole que notre frère a mentionnée par le fait qu'il y avait ces 200 ans de l'existence du temple de l'église de Cré. C'est formidable de voir toutes ces années où il y a eu un témoignage dans cette ville. Aujourd'hui, il y a l'installation d'un nouveau pasteur au temple de Die. Donc, nous sommes heureux parce que c'est un pasteur qui aime le Seigneur, qui va annoncer l'Évangile. Donc, c'est aussi un sujet d'encouragement, un sujet de prière aussi pour que son ministère soit béni dans la ville où nous habitons. Et puis, il y a eu beaucoup de paroles aussi qui nous ont parlé de notre Seigneur, de son nom glorieux, son nom béni, son nom puissant. Et je vais, je pense, aller dans ce sens au niveau du message. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi ce chant avec cette image où nous avions un lac dans les montagnes et avec cette image du refuge. Il y a eu 9 jours maintenant, j'étais dans le massif des Écrins. Ça doit parler à Pierre un peu, je pense. Et j'ai eu l'occasion de monter au refuge du glacier blanc, puis après aller jusqu'au refuge des Écrins. Et c'est un endroit où il a fait bon boire un café, se restaurer. Et je pense que cette image du refuge où l'on vient vers le Seigneur, où l'on boit un café, on se restaure, c'est une belle image aussi pour notre vie. Voilà, mais j'en viens au message maintenant. Et j'aimerais partager avec vous une scène du Nouveau Testament, du livre des Actes des Apôtres, que vous connaissez très bien, mais voilà, j'ai choisi cela pour que nous puissions le voir ensemble ce matin. Alors, ça sera dans Acte 3, enfin, on va prendre à partir du chapitre 2, le verset 46, jusqu'au verset 9 du chapitre 3. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Ça vient juste après la Pentecôte. Hein. L'Esprit était fort agissant à cette époque. J'espère aujourd'hui encore. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous !» lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite, et le fit se lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent, D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. Alors c'était un long texte que je viens de lire, mais je ne retiendrai de ce texte. D'ailleurs, ce texte se poursuit après, il y a tout un cheminement qui s'est fait grâce à ce miracle. Mais de ce texte, je ne retiendrai qu'un petit verset que je méditerai avec vous ce matin. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, je vais vous faire une petite proposition pour introduire ce message, voir un petit peu le contexte qui me permet d'improviser une sorte de conversation qui précéderait cette rencontre décisive entre Pierre et Jean et cet infirme. Alors c'est Pierre qui interpelle Jean. « Bien, mon ami Jean, tu as vu l'heure? Il est temps de se rendre au temple. » Jean, « En effet, Pierre, nous avons bien des sujets de prière. Tu auras observé qu'à la porte du temple se trouve un homme qui me pose un réel problème de conscience depuis quelques jours. » Pierre, tu as raison, mon frère. Il est là tous les jours à faire la quête. Et nous passons à côté de lui en feignant de croiser son regard. Et vite fait, on franchit la porte de la prière. Jean, le problème, c'est qu'au fond de notre poche, on n'a même pas un rond pour le glisser dans le chapeau. Tu sais bien, la vie par la foi que nous a enseigné Jésus, elle ne nous facilite pas toujours la tâche. Pierre. Bon, écoute, Jean, c'est qui notre Seigneur, après tout? Qu'est-ce qui vient de se passer à Jérusalem? On va prier pour cet homme en montant les marches et aujourd'hui, nous le regarderons droit dans les yeux, et nous lui proposerons ce que notre Seigneur nous inspirera sur le moment. Jean, ok Pierre, je t'accompagne, je prierai pour toi, mais c'est toi qui causes. D'accord? Pierre, c'est bon Jean, tu me connais? Pas vrai? Le narrateur. Voilà Pierre et Jean arrivés à hauteur du paralysé. Cette fois, ils ont décidé de ne pas esquiver son regard. L'infirme. De grâce, une petite pièce. Je vous en supplie, une petite pièce. J'en aurai besoin pour mon casse-croûte de ce soir. S'il vous plaît, une pièce, c'est pas grand-chose. Jean, allez Pierre, lance-toi, je suis à tes côtés, je prie pour toi. Tu le sais encore mieux que moi, nous avons un puissant sauveur. Je relis les versets 4 maintenant à 6. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Nous qui écoutons cette parole ce jour, quel effet a-t-elle sur nous? Comment nous parle-t-elle? je voudrais bien sûr avancer prudemment, parce que, me direz-vous certainement, nous ne sommes plus dans les débuts extraordinaires de l'Église primitive, avec l'effusion du Saint-Esprit qui se manifestait par des miracles extraordinaires, et dont nous ne sommes peut-être plus aussi habitués à en être les témoins aujourd'hui. C'est vrai. En même temps, je suis sûr que dimanche après dimanche, nous recevons un bon enseignement, et donc que nous sommes convaincus que Dieu ne change pas, qu'il est encore capable de faire de grandes choses aujourd'hui. En méditant sur cet épisode et en préparant ce message, je n'ai pas pu me soustraire néanmoins à une interpellation. Comment, aujourd'hui, dans mon contexte quotidien, avec le témoignage que je souhaite apporter, comment ces paroles m'encouragent-elles à affirmer ma foi en un Sauveur puissant, agissant en moi, mais aussi autour de moi ou à travers moi. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà trois points que j'aimerais voir un petit peu avec vous. Et en le préparant, je me suis demandé, mais quel est le plus difficile à aborder de ces trois points ? Je vous pose un peu la question. Réfléchissez un tout petit peu. Je ne sais pas si vous aurez la même réponse que moi. Le point le plus difficile à aborder de ces trois points. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Peut-être que vous avez trouvé votre réponse. La mienne, c'est que le point le plus difficile sur lequel j'ai dû me concentrer, sur lequel j'ai dû réfléchir, sur lequel j'ai dû me placer moi-même, c'est de savoir ce que ça veut dire pour moi. Je n'ai ni argent ni or. Pierre utilise-t-il ici une figure de style pour se soustraire de mettre la main à la poche ? Est-il vraiment sincère quand il dit « Je n'ai ni argent ni or ?» Aujourd'hui, nous pourrions sincèrement poser la question « Mais alors, comment fait-il donc pour vivre ?» Ah, j'ai déjà en partie répondu dans la conversation du début. Est-ce qu'il vit de la pluie et du beau temps ? Est-ce que l'on peut penser aujourd'hui qu'un serviteur de Dieu puisse dire « Je n'ai ni argent ni or » qu'en tant qu'enfant de Dieu qui vit par la foi, certes, puisse affirmer « Je n'ai ni argent ni or » Comment comprendre ? Comment traduire cette affirmation dans ma vie aujourd'hui ? Je l'avoue, c'est peut-être pas si simple. Est-ce que je pourrais tout go, avec la même détermination que Pierre, annoncer à une personne infirme qui dépend d'une pièce d'argent pour survivre, affirmer « je n'ai ni argent ni or ». Alors je n'ai aucun doute à propos de la sincérité de Pierre et de Jean. Quand Pierre affirme « je n'ai ni argent ni or », c'est bien que c'était vraiment le cas. Nous en connaissons la raison, parce que Pierre et Jean ont répondu à l'appel de leur maître à le suivre et que Jésus les a aidés à mettre en pratique dans leur vie de disciples ce que voulait dire vivre par la foi en ce Sauveur puissant qui était capable de pourvoir à leurs besoins quotidiennement. Alors, petite réflexion, c'est peut-être bien ce qui nous retient souvent quand nous possédons des biens, de ne pas savoir de quelle manière venir en aide aux plus démunis. Se pose ici une question de vie pratique. Comment, aujourd'hui, gérer notre argent et notre or en bons disciples des biens que Dieu nous confie ? sont-ils ou seraient-ils un frein à notre vie de foi, ou sont-ils là pour glorifier notre Maître? En me plaçant sur ces deux petits mots, si pleins de sens, et pourtant sous la forme négative, je me suis senti interpellé, à savoir, qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui me préoccupe tellement que je suis incapable de répondre à des besoins qui se présentent là, dans mon quotidien? Suis-je si près de mon argent et de mon or? Nous pouvons être tellement absorbés par nos besoins, par les soucis de la crise, par les incertitudes de l'année en cours, par les bruits de guerre à nos portes, par l'inflation qui recommence à galoper, et donc par l'augmentation du coût de la vie. Oui, nous pourrions être si préoccupés par toutes ces questions qu'on pourrait oublier ce pourquoi le Seigneur nous appelle, ce à quoi il voudrait répondre, les besoins auxquels il voudrait donner une réponse, la sienne avec la nôtre. Les disciples avaient adopté un mode de vie de dépendance à Dieu, de foi en ce Dieu qui pourvoit, en ce Dieu puissant, en ce Dieu capable de combler de bien ses enfants. Ces instructions, est-ce que nous cherchons encore à savoir comment nous pourrions leur trouver un sens de nos jours? Comment on pourrait se les appliquer à nos vies? Sont-elles encore valables pour nous? Est-ce qu'elles ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? On s'embarrasse de tellement d'argent et d'or, de toutes sortes, qu'on n'a plus nécessairement le regard lucide et disponible pour entrer en compassion avec les besoins tels que Pierre les a vus au moment où il allait franchir une nouvelle fois la porte du temple. Une vie simple, sans fioritures, sans excès, sobre, que l'on peut peiner à accepter si nos critères se calent sur la mentalité ambiante. Je ne suis pas en train de dire qu'il suffit de décider de faire vœu de pauvreté, de choisir une vie d'ascète, mais je dis qu'il vaut la peine parfois de recentrer notre pensée, notre éthique de vie, nos priorités sur le sens des vraies valeurs, avec un point de vue réajusté par les valeurs de l'Évangile. Et ce sens des vraies valeurs, il était au cœur des préoccupations de Pierre lorsqu'il s'approche de cet infirme, qu'il s'adresse à lui, qu'il l'interpelle en disant « Regarde-nous ». Interpellation qui a fait naître en cet homme l'espoir que Pierre et Jean feraient un geste pour lui. Je fais une petite parenthèse. Je pense d'ailleurs que dans le personnage que j'ai décrit, et je pense à Pierre notamment, qu'il ne portait pas forcément le costard comme je le porte aujourd'hui, et qu'il n'avait peut-être pas du fixe dans les cheveux. C'était peut-être beaucoup plus simple lorsqu'il est monté au temple. Et il dit à cet homme, « Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ce n'est pas « Au nom de Jésus, Amen », mais « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Pierre connaît ce nom. Il aime Jésus. Pierre connaît la puissance de ce nom. Ce nom est indissociable de la personne qu'il habite. Pierre est un témoin qui a vu Jésus, entendu Jésus, s'est laissé enseigner, reprendre, transformé par Jésus. Pierre est un disciple qui a répondu à l'appel du Maître. Allez, faites des nations des disciples. Enseignez-leur. Pierre a retenu le message d'envoi. En mon nom, ils chasseront, guériront. Il a aussi retenu la parole de Jésus donnant autorité pour accomplir ses œuvres. Pierre a fait sien ce message parce qu'il n'y a pas de séparation entre ce que Jésus promet et ce qu'il accomplit. Pierre a confiance en Jésus, il a foi dans les paroles de Jésus. On peut vérifier dans la suite du texte que la parole de Pierre à ce moment précis n'est pas juste une belle déclaration vite fait bien fait pour en mettre plein la vue à cet homme. Tout ce que Pierre va dire par la suite, toutes les interventions qui feront suite à cet épisode prouvent que Pierre est cohérent avec lui-même, avec la foi qu'il professe, avec ce Jésus qu'il habite et de qui il rend un témoignage puissant. 3,16, c'est la foi en son nom. 3,20, lui est le Messie envoyé. 4,7, par quelle puissance, au nom de qui ? 4,8, Pierre rempli du Saint-Esprit. 4,10, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 4,12, il n'y a aucun autre nom. 4,20, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons entendu. 4,29, déploie ta puissance par le nom de ton saint serviteur. Pierre est habité par la présence de Christ. Il est rempli du Saint-Esprit. Il vit ce qu'il dit. Il dit ce qu'il vit. Il est imprégné de cette présence. Appelé, Pierre répond. Nous savons que Pierre avait un tempérament de feu, bouillant. Il continue à l'être après sa conversion. La parole de Dieu l'habite. Il connaît la parole, l'Ancien Testament, les prophètes qu'il a écoutés, qu'il a entendus. Il se souvient de l'enseignement de Jésus. Il a retenu les promesses, les avertissements, les encouragements de Jésus. Pierre a tout cela très présent en lui quand il vient au devant de cet infirme, qu'il prononcera ses paroles de foi. Pierre sait qui est son maître, son sauveur. Pierre connaît la puissance extraordinaire que Jésus est capable de déployer. Rien ne peut lui résister, tout lui est possible. Ce que Pierre a, c'est ce qu'il y a de plus fort qu'un homme puisse posséder. Rien à voir avec des biens terrestres, rien à voir avec des puissances mauvaises. Il offre à cet homme handicapé le meilleur des richesses divines, Jésus. Oui, bon. Ça fait rêver, me direz-vous, une fois de plus. Autre époque, autre Jésus pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que cela voudrait dire si, puisque nous sommes à une autre époque, nous n'aurions pas le même Sauveur? N'oublions pas que ces miracles sont le fruit d'un engagement total d'hommes et de femmes entièrement consacrés à Dieu, que l'on suit en prière, dès le premier chapitre des Actes, au verset 14, qui continue à prier alors que l'Évangile se répand et que s'organise l'opposition. Dieu accomplissait des prodiges avec de prodigieux hommes de foi qui mettaient Dieu à l'épreuve et qui se souvenaient de la parole du prophète Malachie. « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Cherchons donc à savoir si notre désir est aussi intense d'être habité, d'être imprégné de la présence de Christ, de vouloir et de croire ses œuvres encore possibles aujourd'hui. Tout le reste est entre les mains de Dieu. Ce que Pierre connaît, ce Jésus en qui il se confie, son Esprit Saint qui le conduit dans les œuvres préparées d'avance, voilà ce que j'ai. Et pour finir, ce que j'ai, je te le donne. Ce que Pierre a, il le partage. Il ne le garde pas pour lui. De l'argent, il n'en a pas. Ce n'est pas avec de l'argent que le mendiant réglera ses problèmes. Dans un premier temps, en tout cas. ni avec de l'or qu'il obtiendra le salut de son âme. Alors Pierre va lui donner ce qu'il a. Pierre ne laisse pas cet infirme dans l'anonymat des passants, soit qu'il ignore, soit qu'il apaise leur conscience en lui glissant dans la main une pièce, tout en évitant de croiser son regard. Quand Pierre arrive à sa hauteur, il l'interpelle pour tenter de rentrer en lien avec nous, avec lui, pardon. Regarde-nous. Le trésor que je possède, je te l'offre, je te le donne. Il ne garde pas ce trésor pour lui-même, il le partage. Depuis que Pierre a reçu l'Esprit, il ne va pas cesser de partager ce trésor, que ce soit de personne à personne, comme ici, ou publiquement, quand on lui a demandé de rendre compte de l'espérance qu'il habite. Le cœur de Pierre est débordant de l'amour de Christ. Il sait ce qu'il a. En le partageant, ce qu'il a aura les mêmes effets dans la vie de ceux qui seront visités par la grâce du Seigneur, par ses voies de guérison, de pardon, de salut, de vie nouvelle. Si Pierre n'était pas convaincu que Jésus peut tout changer dans une vie, il ne prendrait pas le risque de s'adresser à cet infirme, de lui tendre la main et de lui dire « Lève-toi et marche, et ce que j'ai, je te le donne. » Mais à partir du moment où Pierre sait qui l'habite, ce qu'il a fait pour lui, quelle main il lui a un jour tendue alors qu'il était en train de couler, Pierre ne peut garder pour lui-même ce trésor. Je me suis plu à relire en parallèle avec ces textes du début des Actes les deux épîtres de Pierre. C'est frappant de voir à la fin de sa vie les paroles qu'il adresse à ses auditeurs éprouvés. Jamais il ne sera question de miracles extraordinaires, de guérison miraculeuse. Il parle de son Sauveur. Il encourage les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Il les exhorte à rendre un bon témoignage, à partager l'espérance qui les habite, à vivre une foi simple et vraie entre générations, dans le cadre de l'Assemblée, entre époux, une vie digne du Seigneur qui honore Jésus. Le message de Pierre n'était pas compliqué. Ce que j'ai, je te le donne, ouvrant ainsi la voie du salut au cœur assoiffé de vérité. Je te le donne, un message d'amour. Je te le donne, un message de foi. Je te le donne, un message de restauration. Et bien que nous soyons de ceux qui, aujourd'hui encore, ayant reçu le plus beau cadeau du ciel, le salut en Jésus-Christ, le partage avec les personnes qui sont en attente de le recevoir. Cet infirme, maintenant en pleine santé, sautant et louant Dieu dans le temple et témoignant dès à présent de ce que Jésus a fait pour lui, cet homme a reçu au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer, une santé restaurée, une vie nouvelle. La vie nouvelle de Christ en lui. Eh bien, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen, comme nous aurait dit notre frère Daniel.